L'épicurisme épicurien est une erreur, c'est une erreur philosophique, puisque l'épicurisme est un polythéisme. Polythéisme matérialiste, mais pas un athéisme. Donc l'athéisme de Montaigne est absolument impossible. Qu'il ait rendu possible éventuellement un certain type d'athéisme, ça c'est pas faux. On verra complètement à la fin comment la pensée de Montaigne via Pierre Charon peut devenir une pensée qui va exciter les libertins érudits, ce qu'on appelle les libertins érudits, la Motte Levaillée par exemple, qui va effectuer le passage, mais ça n'est pas parce que certains qui sont athées se réclament de Montaigne et de l'œuvre de Montaigne que Montaigne l'est lui-même précisément. Il ne l'est pas du tout. Il n'est pas non plus, et puis vous verrez aussi sur cette question de l'athéisme que sa vie privée, la vie personnelle de Montaigne, puisque moi je crois, comme vous le savez, à la possibilité pour la biographie d'éclairer l'œuvre, et à la possibilité pour la vie de montrer comment on a pu penser, quelle cohérence il y a eu entre la vie et la pensée, et il y a une cohérence entre la vie chrétienne de Montaigne et la pensée chrétienne de Montaigne. Il n'est pas athée, il n'est pas réformé non plus. Ce que d'aucuns ont dit, on n'a pas dit qu'il était clairement protestant, mais on a fait savoir qu'il pouvait avoir des sympathies, qu'il n'était pas contre. Montaigne est un grand tolérant, et à l'évidence, il y a des moments où on peut considérer que l'éloge qu'il fait de la tolérance est un éloge de la tolérance chrétienne et religieuse. À l'époque, évidemment, on ne peut pas ne pas y penser, ça ne suffit pas pour faire de Montaigne un sympathisant du protestantisme et de la cause réformée. Il suffit, là encore, de le lire, d'aller voir ce qu'il dit et ce qu'il raconte. Il y a quelques moments où il envoie des vannes à Luther, et on aurait des difficultés à montrer que Montaigne est protestant s'il est à ce point acharné à lutter contre Luther, dont il dit d'ailleurs très précisément, il n'a pas complètement tort en matière d'histoire des religions, que le protestantisme est un pas vers l'athéisme. C'est pas faux, à l'évidence, la pensée de Luther, celle de Calvin aussi, sont autant d'occasions, en renvoyant directement à la lecture des textes, de déconstruire le texte et de voir éventuellement comment fonctionne la Bible, comment la Bible, en tant que texte historique, n'est plus susceptible d'être lue comme les catholiques nous invitent à la lire. Et je trouve que le protestantisme comme un moment dans la dialectique qui conduirait à l'athéisme, c'est une idée absolument originale et singulière en plein XVIe siècle. Et puis, il y a une deuxième raison qui me fait croire qu'il n'est pas protestant. Je reviendrai précisément sur cette question-là quand j'aborderai la question de l'amitié de Montaigne et la Boétie. Mais vous savez que Montaigne prétend qu'il écrit pour remplacer la Boétie qui est disparue, qui était très catholique aussi, lui, la Boétie, plus encore que Montaigne. Mais le discours sur la servitude volontaire, qui est un livre génial, je pèse mon mot, j'utilise rarement ce terme-là, mais le discours sur la servitude volontaire est un immense livre de philosophie politique et de philosophie tout court. Ce livre dans lequel la Boétie nous dit « Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre », idée d'actualité, idée d'une grande pertinence à l'époque, mais toujours pertinent aujourd'hui. Il se fait que les réformés ont utilisé le discours sur la servitude volontaire de la Boétie et que Montaigne avait annoncé qu'il intégrerait le discours de la Boétie dans les essais. Il ne l'a pas fait. On peut constater ce vide, ce manque et cette absence. Et il me semble qu'il ne voulait pas donner des gages aux protestants, Montaigne, en considérant que peut-être il pouvait citer là un auteur qui avait leur faveur par ailleurs. Pas athée, pas réformé, pas juif non plus. Ça, c'est une thèse qu'une ethnologue a défendue et qui est tout à fait singulière, limite ridicule, parce qu'elle s'appuie sur quelques hypothèses qui sont d'abord fautives, mais ensuite sur des extravagances et des extrapolations qui sont encore plus ridicules, disons-le comme ça. L'étymologie d'Ekem, vous savez que Michel Ekem et pas Ikem, je vous dis, ce sont deux bonnes choses, mais ce n'est pas exactement pareil. Je dirais Michel Ekem, qui deviendra Michel de Montaigne quand il aura cette espèce de fiction, cette obsession du nom et de la propriété, de l'appropriation de la terre, Ekem procéderait d'une étymologie juive, ce qui reste absolument à prouver. On ne peut pas se contenter comme ça de dire « voilà, Ekem, c'est d'origine juive, donc Montaigne est juif ». Il y a quelque chose d'assez singulier aussi chez cette personne qui nous dit que la Boétie était juif. Alors là, c'est la première fois que la chose est dite et que, évidemment, si Montaigne est juif et que la Boétie est juive, ça justifie leur amitié. Une amitié de goy, mais quand même extrêmement juive, ce qui est assez singulier comme type de proposition. On nous dit aussi que les essais, dans ce livre, que les essais, c'est un livre qui procède de l'herméneutique juive. Toute herméneutique n'est pas juive. L'herméneutique, vous savez, c'est la science de l'interprétation. Qu'il y ait une herméneutique tout à fait singulière chez les juifs, le fameux pile-poule des lecteurs du Talmud, ça existe évidemment, à l'évidence. Il y a une méthodologie de la lecture du Talmud. Mais de là à considérer que c'est en talmudiste que Montaigne aborde les essais et construit et fabrique les essais, c'est une véritable hypothèse qui ne peut pas être fondée et justifiée. Cet auteur nous dit aussi qu'il y a beaucoup d'humour chez Montaigne et qu'à l'évidence, l'humour est juif. Donc, pourquoi pas. Vous savez qu'il y a des moments d'humour, il y a des grands moments d'humour chez Montaigne qui nous dit « épouser sa maîtresse, c'est chier dans un panier et se le mettre sur la tête ». C'est l'expression qu'il utilise, pas moi qui ai inventé ça, c'est une expression.